Les sacrifices mentionnés dans le livre du Lévitique. Dans notre langage courant, la notion de sacrifice est un peu éloignée de son étymologie originelle. On parle généralement d'un renoncement relatif ou d'une privation, d'un renoncement relativement banal, une concession pour faire plaisir à quelqu'un. Ainsi, par exemple, un grand frère va faire un sacrifice, entre guillemets, en laissant le plus gros morceau de chocolat à son petit frère. Il a fait un sacrifice. Ou bien l'époux va renoncer à son émission sportive préférée et il va faire un sacrifice, toujours entre guillemets, pour faire plaisir à son épouse et lui permettre de regarder son épisode de la série qu'elle est en train de suivre. Cependant, à l'origine, le sacrifice est un renoncement, une privation volontaire, un don que l'on rend sacré en vue d'une offrande à la divinité. Sous l'ancienne alliance, le peuple d'Israël prélevait les plus belles bêtes parmi leur troupeau, son troupeau, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Pour les offrir en sacrifice, pour les consacrer en sacrifice à Dieu. Et le livre du Lévitique mentionne 5 sacrifices, 5 sortes de sacrifices différents qui sont offerts à l'Éternel. Alors il y a 4 sacrifices dits sanglants, où le sang coule, et un sacrifice non sanglant, un sacrifice qui est plutôt une offrande végétale. Alors, chacun de ces sacrifices constitue une facette du sacrifice parfait que Jésus-Christ a offert en notre faveur. L'agneau offert aussi représente Jésus-Christ lui-même. Il devait être, nous dit Lévitique chapitre 22, versets 18 à 22, mais ne le lisons pas, je vais simplement le citer. Il devait être parfait, sans tare ni défaut. Image de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dont dira Jean-Baptiste qui ôte le péché de l'humanité. Alors l'épître aux Hébreux nous dit que, en Hébreux 8, verset 5, que le culte des Israélites était une figure, une image, une ombre des réalités célestes. Donc, ce culte qu'offraient les Israélites n'était en fait qu'une figure, une préfiguration du vrai culte. Les 5 sacrifices sont, dans le désordre, premièrement l'Holocauste, deuxièmement, l'offrande végétale ou l'offrande de gâteau. Troisièmement, le sacrifice de communion, appelé aussi le sacrifice de paix ou le sacrifice de reconnaissance. Quatrièmement, il y avait le sacrifice d'expiation ou le sacrifice pour le péché. Et cinquièmement, il y avait le sacrifice de réparation ou encore le sacrifice, appelé aussi le sacrifice de culpabilité. Voilà donc les 5 sacrifices qui sont mentionnés dans le livre des Lévitiques. Alors premièrement, tout d'abord, l'Holocauste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque le temps qui nous est imparti est limité. Je fais juste une substance de ce qui a été dit et partagé en réunion d'études, Mais, et les textes aussi, je ne vais pas lire les textes dans leur entièreté, mais on va lire comme premier texte quand même, où il est question de l'Holocauste, Lévitique chapitre 1er verset 3. Ah, ça y est. Faut me faire signe. Hein. Bon, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Premier sacrifice, holocauste, ça vient d'un mot grec, holos kostos. Holos, ça veut dire entier, tout. Kostos, brûlé. Donc, littéralement, ça veut dire brûler en entier. Seule la peau était prélevée et offerte et donnée au sacrificateur pour qu'il puisse la revendre. On pouvait offrir en sacrifice un taureau, un bouc, un bélier, un agneau ou encore des pigeons, un couple de pigeons ou de tourterelles. L'holocauste était offert d'une part pour l'expiation des péchés involontaires, mais aussi en signe de consécration de la part de celui qui offrait le sacrifice et aussi de la part de celui qui était investi en tant que sacrificateur. Donc l'investiture d'un sacrificateur était accompagnée d'un holocauste. Alors le sacrifice perpétuel illustre bien cette double implication liée à l'holocauste. On trouve ça dans Lévitique 6, verset 1 à 2, mais on ne va pas le lire. Il s'agissait d'un holocauste, donc le sacrifice perpétuel, il s'agissait d'un holocauste qui était offert chaque jour, quotidiennement, matin et soir. Pourquoi ? Eh bien, pour rappeler, d'une part, que la culpabilité du peuple d'Israël était permanente et que, d'autre part, il avait aussi besoin de voir cette culpabilité expiée par ce sacrifice. Et à côté de ça, il était question aussi de la consécration que l'Éternel exigeait de la part de son peuple, une consécration pleine et entière de la part de son peuple à travers l'Holocauste, à travers l'animal qui était consacré entièrement à l'Éternel. Donc d'une part, ça rappelait, le sacrifice perpétuel rappelait que, eh bien, le peuple était coupable tout au long de la journée, il y avait des péchés qui se commettaient, et que le peuple, ce même peuple avait besoin d'une expiation, et puis d'autre part, ça rappelait aussi que Dieu attendait de la part de son peuple une consécration totale. Alors, individuellement, quand un Israélite présentait une bête destinée à être offerte en holocauste, c'est sa vie entière qu'il souhaitait symboliquement offrir, consacré à l'Éternel. Mais personne n'a jamais pu offrir sa vie entièrement à l'Éternel. Personne n'a pu entièrement offrir, se consacrer entièrement à l'Éternel. Seule une personne a pu le faire, et c'est la personne de Jésus-Christ, qui s'est offert entièrement en holocauste à l'Éternel. Donc, l'holocauste est une figure, une préfiguration imparfaite de l'holocauste parfait que Jésus-Christ allait accomplir devant Dieu. Il est, Jésus s'est offert en holocauste pour Dieu. Voilà, première figure, première préfiguration du premier sacrifice, à savoir l'Holocauste, qui était offert dans, et qui est mentionné dans le livre du Lévitique. Après l'Holocauste, il y a un deuxième sacrifice qui était offert. Et ce deuxième sacrifice, c'était l'offrande végétale, l'offrande de gâteau. En signe de reconnaissance pour les récoltes qui avaient permis à l'Israélite de nourrir sa famille, son clan, ces récoltes qui étaient produites par la terre qui était cultivée, eh bien, en signe de reconnaissance, l'Israélite qui venait de moudre son grain en prélevait une partie, une portion, un échantillon, pour l'offrir à Dieu, pour l'offrir à l'Éternel. Pour lui, l'Israélite se contentait de broyer des grains de façon grossière. Mais pour Dieu, pour la partie qui était consacrée à l'Éternel, l'Israélite prenait le soin de broyer la farine pour qu'elle soit la plus pure, la plus raffinée et la plus parfaite possible. Il ne devait pas y avoir de son, il ne devait pas y avoir de corps étranger dans la farine qui était consacrée à l'Éternel. Et cela, eh bien, cela nous parle finalement de Jésus, pain de vie, et de la vie parfaite et pure qu'il a menée sur cette terre. Préfiguration de la perfection et de la pureté de la vie de Jésus-Christ. Alors, une poignée accompagnée d'huile, d'encens et de sel était jetée sur l'autel, et avec le reste de la farine, qui reste, donc ce qui restait, les Israélites faisaient des pâtisseries, des gâteaux qui étaient offerts aux sacrificateurs. Ça, c'est le deuxième sacrifice. J'ai oublié de mentionner que la farine qui était hyper raffinée, et qui était pure, qui était broyée finement, était appelée, dans le livre de Lévitique et ailleurs dans l'Ancien Testament, la fleur de farine. La fleur de farine qui typifie donc, en quelque sorte, la vie parfaite et pure du Seigneur Jésus. Troisième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'était le sacrifice de communion. Alors, le sacrifice de communion qui était aussi appelé le sacrifice de paix ou encore le sacrifice de reconnaissance. Ah, j'ai oublié de lire le texte relatif à l'offrande de gâteau, mais c'est pas grave. C'était dans Lévitique, chapitre 2, versets 1 à 3. Alors, le troisième sacrifice, se trouve dans quoi? Lévitique, chapitre 3, verset 1. Il est là? Lévitique, chapitre 3, verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il l'offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Ben, c'est pas mentionné que c'est une offrande de communion, tant pis, on va pas chercher après un autre texte. L'offrande de communion, eh bien, c'est un sacrifice volontaire qui accompagnait un vœu fait par celui qui offrait l'animal en sacrifice à Dieu. Alors, un vœu, eh bien, c'était tout simplement un engagement, une promesse solennelle que celui qui apportait le sacrifice faisait devant l'Éternel. Donc, le sacrifice de communion accompagnait un vœu, mais il était aussi une forme de reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement envers Dieu pour une série de bénédictions dont celui qui avait apporté l'animal avait bénéficié de la part de Dieu. Par exemple, beaucoup de naissances parmi ses troupeaux. Ou bien la naissance de jumeaux mâles, parce que les mâles étaient perçus comme une bénédiction, excusez-moi. Mais c'était des flèches dans le carquois, nous dit le livre des psaumes. Donc, c'était une offrande de communion. Pourquoi? Parce qu'elle réunissait à la fois celui qui venait offrir le sacrifice, sa famille, éventuellement ses amis, les sacrificateurs et Dieu autour d'un seul et même repas. Sacrifice de communion. Alors c'est précieux de voir ce sacrifice comme étant lié à la table du Seigneur, à la Sainte-Seine. Le sacrifice de Christ rassemble ses enfants, sa famille aussi autour d'un même repas. Sacrifice de communion préfigurait donc le repas du Seigneur rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ qui réunit ses enfants autour de la table. Quatrième sacrifice. Le quatrième sacrifice qui est envisagé dans le livre de Lévitique 4, versets 27 à 31, c'est le sacrifice d'expiation, ou bien le sacrifice pour le péché. On l'appelait tantôt sacrifice d'expiation, ou bien sacrifice pour le péché. Lévitique 4, versets 27 à 31, et nous lisons: si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Voilà, donc le sacrifice d'expiation, expiation pour le péché. Alors, en fonction de la situation financière du coupable, il pouvait offrir soit un taureau, soit un bélier ou un bouc, ou soit encore un couple de tourterelles ou de pigeons, ou encore vraiment pour les plus pauvres, 2 litres de farine, de fleurs de farine, comme on l'a vu tout à l'heure dans le sacrifice, à travers le sacrifice végétal. Alors le pécheur posait sa main sur la tête de l'animal en signe d'identification. L'animal, en quelque sorte, se substituait au coupable et l'aspersion du sang couvrait son péché. C'est le sens étymologique du mot hébreu « kiper », couvrir le péché. Hébreux 10, verset 10, nous dit, je vais le lire, tu n'as pas besoin de chercher Nathan, nous apprend que ces sacrifices expiatoires étaient incapables d'ôter les péchés. Normal, puisque ce n'était que des figures, des ombres, des réalités célestes, des réalités à venir. Ces offrandes étaient donc l'image du sacrifice expiatoire de Jésus qui allait effacer pleinement les péchés, laisser impunis, nous dit Romains chapitre 3, verset 25, au temps de la patience de Dieu. Et c'est donc sur cette base de sacrifice parfait de Christ qui était à venir que les saints de l'Ancien Testament ont pu être pardonnés, en espérance. Les sacrifices d'expiation du Premier Testament préfigurent donc le sacrifice expiatoire de Jésus qui a purgé notre culpabilité, il a été notre substitut, il a payé le prix de notre rachat, et la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 10, nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. » Le sacrifice d'expiation ou le sacrifice pour le péché mentionné dans le livre des Lévitiques était une figure, une préfiguration du sacrifice expiatoire parfait de Jésus-Christ qui allait non pas couvrir mais effacer nos fautes, nos transgressions, nos péchés. Cinquième sacrifice dernier sacrifice mentionné dans le livre des Lévitiques. On le trouve au chapitre 5 et on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 de Nathan. Lévitique, chapitre 5, versets 14 à 16. Donc je le lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. » Voilà, jusque-là la lecture. Ici, dans le cadre du sacrifice de culpabilité, c'était toujours un bélier ou un agneau qui était offert. Alors le coupable devait offrir un bélier ou un agneau sans défaut, dont la viande revenait au prêtre, au sacrificateur. En plus de l'agneau qui avait été offert pour la rémission du péché, le fautif, le coupable, devait rendre aussi un tiers de la valeur qui avait lésé la personne qui était victime. On va donner des exemples. Par exemple, si c'était un bélier, mais il devait donner en plus un cinquième de la valeur du bélier. Il y a donc trois cas qui étaient envisagés dans le cadre d'un sacrifice de culpabilité. Premièrement, c'était la culpabilité liée à une faute involontaire, une négligence à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel. Par exemple, si quelqu'un amenait un sacrifice, un agneau en sacrifice, et que il ne s'était pas rendu compte que cet agneau avait une gale, une sorte de gale, avec la laine des moutons, on ne voit pas toujours si ça, ils perdent leur laine à la longue, mais au début, on ne le voit pas toujours. Et les animaux étaient examinés par les sacrificateurs de façon scrupuleuse pour voir s'ils étaient réellement parfaits, ou bien si un agneau était présenté au sacrificateur en vue d'un sacrifice et qu'il avait un voile devant un des yeux et qu'il était aveugle. Celui qui offrait le sacrifice ne l'avait pas vu, mais le sacrificateur le voyait. Il avait lésé, il avait commis une erreur involontaire, et il devait payer pour cette erreur. Il devait donc offrir un sacrifice parfait, un agneau parfait, plus un cinquième de la valeur de l'agneau. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure envisagé pour le sacrifice de culpabilité, eh bien, il est lié à la non-observance, toujours involontaire, de la loi de Moïse. Donc, par exemple, il y a des Israélites qui connaissaient pas bien, comme il y a des chrétiens qui ne connaissent pas toujours bien la Bible non plus, qui ne connaissaient pas bien la loi, et qui avaient mangé peut-être un animal qui était mentionné dans la liste impure de Lévitique chapitre 11. Un lièvre, par exemple, était un animal impur. Si un Israélite avait mangé un lièvre et que quelqu'un d'autre aurait vu qu'il mangeait un lièvre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je mange de la viande que j'ai chassée, mais tu ne peux pas manger de cette viande, c'est un animal impur. Donc il se rendait compte a posteriori de son erreur. Il devait offrir un sacrifice d'expiation de quoi? Donc un sacrifice de culpabilité, un agneau en l'occurrence, devant la tente d'assignation. Mais en plus de ça, il va aussi donner un cinquième de la valeur du lièvre. Je ne sais pas combien ça coûtait un lièvre à cette époque-là, mais un cinquième, donc comme amende, comme dédommagement supplémentaire. Le troisième cas de figure qui était envisagé, c'était une forme de vol. Admettons qu'un Israélite avait emprunté un outil à son voisin, et puis qu'il l'avait caché dans sa maison et qu'il avait dit à son voisin, mais non, je te l'ai rendu, ou bien non, je l'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mis. Et qu'on retrouve cet outil dans sa maison, qui était bien visible, eh bien, pour couvrir sa faute, l'Israélite en question, qui n'avait pas été honnête en quelque sorte, devait offrir un agneau en sacrifice et devait aussi payer comme amende un cinquième de la valeur de l'outil qu'il avait emprunté et soi-disant perdu à son voisin. Troisième cas de figure. Alors, Christ aussi a été notre sacrifice de réparation, puisque c'était un sacrifice, le cinquième sacrifice qu'on vient de mentionner, était un sacrifice de culpabilité ou de réparation. Et Christ a été aussi notre sacrifice de réparation. Il pardonne nos fautes involontaires comme nos fautes volontaires. Il a été notre sacrifice de réparation, et nous lisons en Ésaïe, au chapitre 53, versets 10 à 11, la confirmation que Jésus est aussi notre sacrifice de réparation. Et c'est affiché. Il a plu. Qu'est-ce que tu as ? 53, versets 10 à 11. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu faisais de sa vie un sacrifice de culpabilité, ou, dans ma version, c'est de réparation, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Mais j'aimerais souligner le fait que le prophète Ésaïe mentionne que Jésus est notre sacrifice de culpabilité. Jésus est notre sacrifice de réparation. Alors en quoi est-ce qu'il est notre sacrifice de réparation? Eh bien parce qu'il a obtenu réparation auprès de Dieu, il a rendu à Dieu toute l'obéissance qu'exige la loi et que nous étions incapables de respecter. Nous sommes incapables, nous avons été incapables de respecter la loi, puisque la loi nous a été donnée pour faire ressortir en nous notre imperfection, justement, pour nous montrer que nous sommes des êtres imparfaits. Et seul Jésus-Christ a obtenu réparation auprès de Dieu en accomplissant à la perfection la loi que nous étions incapables de respecter. Christ, sacrifice de réparation. Conclusion. Christ, par sa crucifixion, a mis un terme au sacrifice prescrit par la loi de Moïse. On voit ça dans... C'est Jean-Paul qui avait rappelé ça en réunion d'études mardi, il y a 15 jours bientôt. Hébreux 10, versets 5 et 6. On voit que Christ est venu mettre un terme par son propre sacrifice parfait au sacrifice sanglant qui était mentionné dans le livre des Lévitiques. Vous voyez, c'est affiché. Hébreux, chapitre 10, versets 5 et 6. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ Jésus, par son sacrifice sanglant, sa crucifixion a mis un terme au sacrifice du Premier Testament. Il a aboli, je poursuis un petit peu plus loin le texte, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'était l'offrande de sacrifice d'animaux. La deuxième chose, la seconde chose, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Alors, comme nous l'avons vu, les sacrifices du Lévitique étaient des préfigurations, des figures du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Christ s'est offert en holocauste. Il s'est consacré pleinement et entièrement à Dieu, son Père. Deuxièmement, Christ s'est offert en libation. La libation, c'est aussi le sacrifice végétal, par sa vie pure, par sa vie parfaite, à l'image de la fleur de farine, qui devait être ultra raffinée, ultra pure. Christ est notre sacrifice de communion. Il nous réunit autour de sa table. Christ est notre sacrifice d'expiation. Par son sang précieux, il a expié nos péchés. Il a purgé la peine que nous méritions. Il est mort à notre place, il a été notre substitut. Christ est notre sacrifice de réparation. Il a accompli la loi parfaite de Dieu que nous ne pouvions pas respecter. Alors, pour aborder peut-être un aspect un petit peu plus pratique, quel sacrifice nous, chrétiens, aujourd'hui, pouvons-nous offrir à Dieu? Quel sacrifice pouvons-nous offrir à Dieu aujourd'hui? Alors, tout d'abord, il y a Hébreux 13, 15, nos louanges et nos actions de grâce, qui sont comme un sacrifice d'odeur agréable devant l'Éternel, devant notre Dieu. Nos sacrifices de louange, nos sacrifices d'action de grâce. Hébreux 13, verset 15 dit, par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et Pierre va dans ce même sens, mais ne cherche pas, Nathan, je vais simplement faire la lecture ici. L'apôtre Pierre va dans le même sens lorsqu'il écrit dans sa première épître au chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles ou des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Premier sacrifice spirituel que le chrétien peut offrir. Deuxième sacrifice spirituel que le chrétien peut offrir, eh bien, c'est la bienveillance envers l'autre, mais aussi la générosité, la libéralité pour l'œuvre, au profit de l'œuvre de Dieu, au profit de son Église. Nos offrandes matérielles et la bienveillance. Hébreux 13, verset 16 dit, je vais simplement faire la lecture, Hébreux 13, verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La libéralité et la bienfaisance sont aussi des sacrifices spirituels que nous pouvons présenter, offrir à notre Dieu. Et puis, il y a un troisième sacrifice, évidemment, il est connu, celui-là, Romains 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Oui, je veux offrir mon corps, le don de soi-même, le don de soi, le don de notre corps. Je donne mes mains à l'Éternel. Je donne mes membres, mes bras, mes yeux, ma voix, mes pieds, mon énergie à l'Éternel, ma force à l'Éternel. Au lieu de sacrifier nos corps au Dieu de ce monde, mettons notre corps à la disposition de Dieu. C'est là notre sacrificature. Offrir nos corps, offrir nos vies, le don de soi à Dieu. Alors je peux aussi offrir de mon temps à Dieu, en sacrifice à Dieu. Je renonce à certaines choses futiles, à certaines activités que j'affectionne peut-être particulièrement, pour consacrer mon temps à Dieu, à la prière, pour passer du temps dans la prière, pour passer du temps dans l'intercession, pour passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans sa méditation, pour passer du temps en fréquentant de façon assidue les réunions d'études, les réunions d'église, le culte, hein, mettre mais don au service de Dieu, passer, consacrer son temps, sacrifier de son temps au profit pour l'offrir à l'Éternel, pour l'offrir à Dieu. Vous savez, quand le groupe de louanges se réunit, ils consacrent de leur temps, ils sacrifient de leur temps. Ils viennent ici, on ne le sait pas, mais ils viennent ici pour répéter des chants, pour mieux les apprendre et pour que nous puissions aussi, en communauté, pleinement en profiter. Ils consacrent de leur temps. Quand les monitrices de l'école du dimanche prennent les enfants en charge, elles consacrent de leur énergie, de leur temps, pour préparer des leçons adaptées aux différentes tranches d'âge. C'est du temps qu'elles offrent en sacrifice à l'Éternel. Quand il y a une équipe de travaux qui vient ici pour rénover la salle, hein, avec le frère David, bien, ils consacrent de leur temps et ils offrent leurs mains pour pouvoir restaurer l'Église. C'est un sacrifice aussi. Quand le président donne le président du culte donne une orientation bien précise, un sujet, un thème, une ligne de pensée à suivre, ben il consacre aussi du temps. Demande à Jean-Pierre tout à l'heure le temps qu'il a dû consacrer pour sa présidence. Et puis quand on ne se rend pas toujours compte, mais pour préparer une étude biblique ou un message, ça dure une demi-heure. Mais derrière la demi-heure, il y a des heures et des heures de travail de recherche pour pouvoir partager le fruit de la réflexion aux frères et sœurs. Donc c'est un temps aussi qu'on sacrifie pour le Seigneur. Quand on donne un coup de fil, à Alain, Marc, il aime bien donner des coups de fil et ça fait plaisir. Hein. Mais quand on donne un coup de fil ou quand on rend visite à quelqu'un qui est en souffrance pour l'encourager, c'est aussi un temps et de l'énergie qu'on offre en sacrifice à Dieu. Quand l'équipe d'évangélisation s'en va et consacre tout un après-midi par tous les temps en parcourant des kilomètres, c'est aussi un sacrifice et du temps. C'est aussi du temps et de l'énergie qu'ils offrent en sacrifice à Dieu pour la distribution de traités d'évangélisation pour nos concitoyens. Ils offrent leur corps, ils offrent leurs pieds en sacrifice à l'Éternel. Quitter son lit douillet le dimanche matin, j'avais pas envie de me lever au matin. Mais c'est aussi un sacrifice qu'on fait pour le Seigneur. On lui consacre notre temps pour venir l'adorer parce qu'il est digne de recevoir notre adoration et notre louange. Un sacrifice pour Dieu, de toute façon, ça coûte quelque chose. Et ce quelque chose, généralement, on y tient. C'est pour ça que c'est un sacrifice. Et le David dit dans 1 Samuel chapitre 24, verset 24, ceci: je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Un sacrifice qu'on offre à Dieu, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Alors les sacrifices ne doivent pas être uniquement faits par une poignée de chrétiens, mais ils devraient être faits par tous les membres de la communauté. Chaque membre de la communauté devrait offrir des sacrifices spirituels divers à l'Éternel. Alors la question de conclusion, c'est la suivante. Qu'est-ce que j'offre en sacrifice au Seigneur? Qu'est-ce que j'offre en sacrifice au Seigneur? Pour qu'il soit glorifié et pour que son Église soit rayonnante dans ce monde. Qu'est-ce que j'offre en sacrifice au Seigneur pour qu'il soit pleinement glorifié, pour que son Église soit rayonnante dans ce monde de ténèbres ?